Le mot rendu par importunité signifie littéralement effronterie, comme si Jésus avait voulu nous faire comprendre que Dieu voudrait nous voir approcher de lui avec une résolution si ferme d'obtenir les choses désirées qu'aucun refus ni retard apparent de sa part ne puisse changer notre assurance en confusion. Dieu se réjouit de la sainte audace de ceux qui ne s'accommodent point d'un refus. C'est là l'expression d'une grande foi, et rien n'est plus agréable à Dieu que la foi. Il semble presque que Jésus ait repoussé la femme syrophénicienne avec rudesse, mais elle ne voulut pas se laisser repousser. Aussi Jésus considéra-t-il son audacieuse importunité avec plaisir et il lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux ». Matthieu 15, 28 « Dieu ne nous laisse pas toujours obtenir les choses dès notre premier effort ». Il veut nous exercer et faire de nous des hommes solides en nous obligeant à travailler dur pour ce qu'il y a de meilleur. De même, il n'exauce pas toujours notre prière dès la première demande. Il veut nous exercer et faire de nous des hommes de prière solides en nous obligeant à prier dur pour ce qu'il y a de meilleur. Il nous fait prier jusqu'au bout anglais, prêtre Hugues. Je suis heureux qu'il en soit ainsi. On ne peut être exercé à la prière d'une façon plus bénie qu'en étant contraint à redemander encore et toujours, même au cours de nombreuses années, avant d'obtenir ce que l'on recherche auprès de Dieu. Quand Dieu ne leur accorde pas l'objet de leur requête à la première ou à la seconde prière, bien des gens disaient bien. Ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu et ils appellent cela de la soumission. En règle générale, ce n'est pas de la soumission, c'est de la paresse spirituelle. Dans le domaine de l'action, quand nous abandonnons après avoir fait un ou deux efforts pour obtenir quelque chose, nous n'appelons pas cela de la soumission à la volonté de Dieu, mais de la faiblesse de caractère. Quand un homme d'action énergique entreprend quelque chose, s'il ne réussit pas à la première, la seconde ou la centième fois, il continue à frapper à coups redoublés jusqu'à ce qu'il ait réussi, de même l'homme de prières énergiques. Quand il entreprend de prier pour quelque chose, continue à prier jusqu'au bout un qu'il achève, prêt, trouve et obtient ce qu'il recherche. Nous devrions prendre bien garde à ce que nous demandons à Dieu, mais quand nous commençons à prier pour quelque chose, nous ne devrions jamais cesser de prier pour cette chose avant de l'avoir obtenue ou avant que Dieu nous ait montré très clairement et très nettement que ce n'est pas sa volonté de nous l'accorder. Certains voudraient nous faire croire que prier deux fois pour la même chose dénote l'incrédulité, que nous devons la saisir dès la première demande. Certes, il arrive que nous soyons capables, par la foi en la parole de Dieu ou en la direction du Saint-Esprit, de revendiquer dès la première fois ce que nous avons demandé à Dieu, mais, incontestablement, il arrive aussi que nous devions prier à de multiples reprises pour une même chose avant d'obtenir notre exaucement. Ceux qui ne vont jamais jusqu'à prier deux fois pour une même chose ont dépassé leur maître. Matthieu 26, 44. George Müller pria quotidiennement pour deux hommes pendant plus de 60 ans. L'un d'eux fut converti peu avant la mort de George Müller, c'était, je crois, à la dernière réunion qu'il tint l'autre, fut converti moins d'un an après. On a grand besoin à l'heure présente d'hommes et de femmes qui ne se contentent pas de commencer à prier, mais qui continuent à prier, prier, prier jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils attendent du Seigneur. Comment prier ? C'est demeurer en Christ. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15,5, c'est tout le secret de la prière se trouve dans ces paroles de notre Seigneur. Voici la prière qui dispose d'un pouvoir illimité, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il y a donc un moyen de demander et d'obtenir exactement ce que l'on demande et tout ce que l'on demande. Christ pose deux conditions à cette prière toute puissante. 1. La première condition est si vous demeurez en moi. Qu'est-ce que demeurer en Christ? Quelques-unes des explications données sont si profondes et si mystiques que, pour beaucoup d'enfants de Dieu à l'esprit simple, elles ne signifient pratiquement rien, pourtant ce que Jésus voulait dire était en réalité très simple. Il venait de se comparer à une vigne et ses disciples à des sarments. Quelques sarments restent attachés à la vigne, c'est-à-dire demeurent dans une vivante union avec elle, de sorte que la sève ou la vie de la vigne afflue constamment dans ses sarments. Ils n'ont aucune vie indépendante qui leur soit propre. Tout en eux est simplement le produit de la vie de la vigne qui s'écoule en eux. Les bourgeons, les feuilles, les fleurs, les fruits qu'ils portent ne sont pas vraiment leurs bourgeons, leurs feuilles, leurs fleurs et leurs fruits, mais ce sont ceux de la vigne. D'autres sarments sont complètement séparés de la vigne, ou bien le cours de la sève ou vie de cette vigne est, de quelque manière, arrêté en eux. En ce qui nous concerne maintenant, demeurer en Christ, c'est conserver avec lui une relation semblable à celle de la première sorte de sarment avec la vigne. Demeurer en Christ, c'est, autrement dit, renoncer à toute vie indépendante qui nous soit propre, cesser d'essayer de penser nos pensées propres, de former nos propres résolutions, de cultiver nos propres sentiments, pour simplement et constamment regarder à Christ, qui pensera en nous ses pensées, formera en nous ses desseins, éprouvera en nous ses émotions et ses affections. C'est renoncer à toute vie indépendante de Christ et s'étendre à lui constamment pour qu'il nous infuse sa vie et la manifeste à travers nous. Quand nous faisons cela, et dans la mesure où nous le faisons, nos prières obtiendront ce que nous attendons de Dieu. Il ne peut en être autrement car nos désirs ne seront plus alors nos propres désirs, mais ceux de Christ et nos prières ne seront plus en réalité nos propres prières, mais celles de Christ priant en nous. De telles prières seront toujours en harmonie avec la volonté de Dieu et le Père exauce toujours le Fils. Quand nos prières échouent, c'est parce qu'elles sont effectivement nos prières. Nous avons conçu le désir, établi la demande par nous-mêmes au lieu de nous attendre à Christ afin qu'il prie par nous. Dire qu'il nous faut demeurer en Christ dans toutes nos prières, nous attendre à Christ pour qu'il prie par nous plutôt que prier nous-mêmes, revient simplement à dire que nous devons prier par l'Esprit. Quand nous demeurons ainsi en Christ, nos pensées ne sont pas nos propres pensées mais les siennes, notre fruit n'est pas notre propre fruit mais le sien, exactement comme les bourgeons, les feuilles, les fleurs et les fruits du sarment qui demeurent sur la vigne, ne sont pas ceux du sarment, mais ceux de la vigne elle-même dont la vie s'écoule dans le sarment et se manifeste par ses bourgeons, ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. Pour demeurer en Christ, il faut évidemment être déjà en Christ, l'ayant accepté comme le Sauveur, dont l'expiation nous a rachetés de la culpabilité du péché, et dont la résurrection nous a délivrés de la puissance du péché, et qui règne maintenant en Seigneur et Maître sur toute notre vie. Étant en Christ, tout ce que nous avons à faire pour demeurer ou rester en Christ consiste seulement à renoncer à notre vie propre, en renonçant absolument à toute pensée, tout dessein, tout désir, toute affection venant de nous-mêmes, et en regardant seulement jour après jour et heure après heure à Jésus-Christ pour qu'il forme en nous ses pensées, ses desseins, ses affections et ses désirs. Demeurer en Christ est vraiment une chose très simple, bien que ce soit une vie merveilleusement privilégiée et puissante. 2. Mais il est une autre condition mentionnée dans ce verset, quoiqu'elle soit en réalité contenue dans la première, c'était que mes paroles demeurent en vous. Si nous voulons obtenir de Dieu tout ce que nous lui demandons, les paroles de Christ doivent demeurer ou rester en nous. Nous devons étudier ces paroles, bel et bien les dévorer, les laisser s'enfoncer dans notre pensée et dans notre cœur, les garder dans notre mémoire, leur obéir constamment dans notre vie, les laisser façonner et modeler notre vie de chaque jour et jusqu'au moindre de nos actes. C'est vraiment là le moyen de demeurer en Christ. C'est par ces paroles que Jésus se communique lui-même à nous. Les paroles qu'il nous dit sont esprit et vie. Jean 6, 63, il est vain d'espérer être puissant, en prière à moins de méditer beaucoup sur les paroles de Christ et de les laisser s'enfoncer profondément dans nos cœurs pour y trouver leur demeure. Beaucoup s'étonnent d'être si impuissants dans la prière, mais tout s'explique très simplement par leur négligence des paroles de Christ. ils n'ont pas serré ces paroles dans leur cœur. Ces paroles ne demeurent pas en eux. Ce n'est pas par des accès de méditation mystique ou d'expérience extatique que nous apprenons à demeurer en Christ, c'est en nous nourrissant de sa parole écrite telle, que nous la trouvons dans la Bible, et en regardant au Saint-Esprit, pour qu'il implante ces mots dans nos cœurs et les y fasse vivre. Si nous laissons ainsi les paroles de Christ demeurer en nous, elles nous pousseront à la prière. Elles seront le moule dans lequel nos prières, prendront forme et nos prières, seront nécessairement selon la ligne de la volonté de Dieu et prévaudront auprès de lui. Mais il est presque impossible de prier de cette manière quand on néglige l'étude de la parole de Dieu. Une simple étude intellectuelle de la parole de Dieu n'est pas suffisante. Il faut qu'elle soit méditée, tournée et retournée dans notre esprit en regardant constamment à Dieu pour que, par son esprit, il la rende vivante dans nos cœurs. La prière née dans la méditation de la parole de Dieu est celle qui s'élance le plus aisément vers l'oreille attentive de Dieu. George Müller, l'un des plus puissants hommes de prière de la génération présente, commençait, quand venait l'heure de la prière, par lire et méditer la parole de Dieu jusqu'à ce que, de l'étude de la parole, une prière commençât à se former dans son cœur. Ainsi Dieu lui-même était le véritable auteur de la prière, et Dieu répondait à la prière qu'il avait lui-même inspirée. La parole de Dieu est l'instrument au moyen duquel agit le Saint-Esprit. Elle est l'épée de l'esprit à bien des points de vue. Celui qui veut expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit dans une quelconque direction doit se nourrir de la parole. Celui qui veut prier par l'Esprit doit longuement méditer la parole afin que le Saint-Esprit dispose du moyen approprié pour agir. C'est par la parole que le Saint-Esprit, formons-nous ses prières, et la négligence de la parole rend impossible la prière par le Saint-Esprit. Si nous alimentions le feu de nos prières de ce combustible qu'est la parole de Dieu, toutes nos difficultés dans la prière disparaîtraient. Comment prier? 8. Prier avec action de grâce. Il y a, dans l'enseignement relatif à la prière que Paul nous donne en Philippiens 4, 6-7, une expression à laquelle on ne prend pas assez garde: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette expression importante, si souvent négligée, est « avec des actions de grâce ». Quand nous nous approchons de Dieu, pour solliciter de nouvelles bénédictions, nous ne devrions jamais oublier de remercier pour les bénédictions qui nous ont déjà été accordées. Si l'un quelconque d'entre nous s'arrêtait à considérer le grand nombre de fois où Dieu a répondu à sa prière et la rareté des cas où il est revenu à Dieu pour lui rendre grâce des exaucements ainsi accordés, je suis sûr qu'il serait écrasé de honte. Il nous faut être aussi précis en rendant grâce que nous le sommes en priant. Nous venons à Dieu avec des demandes bien précises, mais quand nous lui rendons grâce, c'est d'une manière vague et générale. Sans aucun doute, une des raisons pour lesquelles tant de nos prières manquent de puissance est que nous avons négligé de rendre grâce pour les bénédictions déjà reçues. Si quelqu'un venait constamment solliciter notre aide, sans jamais nous dire merci, pour l'aide ainsi accordée, nous nous lasserions vite de secourir un être aussi ingrat, l'intérêt même de celui que nous avons secouru nous retiendrait de le faire davantage par crainte d'encourager une telle ingratitude. Sans aucun doute, notre Père Céleste, par un sage égard pour notre plus grand bien, refuse fréquemment de répondre à des demandes que nous avons fait monter vers lui afin que nous puissions être amenés à prendre conscience de notre ingratitude et que nous apprenions à être reconnaissants. Dieu est profondément affligé par notre ingratitude et la négligence à lui rendre grâce dont beaucoup d'entre nous sont coupables. Quand Jésus guérit les 10 lépreux et qu'un seul homme revint pour lui rendre grâce, il s'écria surpris et peiné. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Luc 17, 17. Comme il doit souvent baisser les yeux sur nous, attristé de nous voir oublier ses bénédictions réitérées et ses fréquentes réponses à nos prières. Rendre grâce pour les bénédictions déjà reçues augmente notre foi et nous rend capables de nous approcher de Dieu avec une nouvelle audace et une nouvelle assurance. Sans aucun doute la raison pour laquelle tant de gens ont si peu de foi quand ils priaient qu'ils prennent très peu de temps pour méditer sur les bénédictions qu'ils ont déjà reçues et en remercier Dieu. Lorsqu'on médite sur les réponses qui ont déjà été accordées à nos prières, la foi devient de plus en plus hardie et nous arrivons à éprouver au plus profond de nos âmes qu'il n'y a rien de trop difficile pour le Seigneur. Lorsque nous réfléchissons d'une part à la merveilleuse bonté de Dieu à notre égard et d'autre part au peu de pensées, de force et de temps que nous avons jamais consacrés à rendre grâce, nous pouvons bien nous humilier devant Dieu et confesser notre péché. Les hommes de la Bible qui ont été puissants en prière, comme ceux de toutes les époques de l'histoire de l'Église, ont été des hommes qui se livraient abondamment à la louange et aux actions de grâce. David était un homme puissant en prière, et voyez combien ses psaumes abondent en louange et en actions de grâce. Les apôtres étaient des hommes puissants en prière, et nous lisons à leur sujet qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Paul était un homme puissant en prière, et combien de fois dans ses épîtres il éclatant des actions de grâce bien définies, rendues à Dieu pour des bénédictions déterminées et des exaucements précis. Jésus est notre modèle dans la prière comme dans toute autre chose. Or, nous trouvons, en étudiant sa vie, que sa manière de rendre grâce au plus simple repas était si remarquable que deux de ses disciples le reconnurent à cela même, après sa résurrection. Rendre grâce est un des résultats qui accompagne inévitablement la plénitude du Saint-Esprit, et celui qui n'apprend pas à rendre grâce en toute chose ne peut pas continuer à prier par l'Esprit. Si nous voulons apprendre à prier avec puissance, nous devons laisser cette expression pénétrer bien profondément dans nos cœurs avec action de grâce. Comment prier ? 9 obstacles à la prière. Nous avons examiné très soigneusement les conditions positives de la prière triomphante, mais il y a d'autre part des choses qui font obstacle à la prière. Dieu les a clairement signalées dans sa parole. 1. Le premier obstacle à la prière se trouve mentionné en Jacques 4, 3 « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Un but égoïste prive la prière de puissance, or, un très grand nombre de prières sont égoïstes. Ces prières peuvent bien demander à Dieu des choses parfaitement légitimes et qu'il est selon sa volonté d'accorder, mais le motif de ces prières étant foncièrement mauvais, elles tombent à terre, impuissantes. Le vrai but quand nous prions est que Dieu soit glorifié par l'exaucement qu'il accorde. Si nous faisons une demande quelconque, simplement pour recevoir quelque chose qui satisfasse nos passions ou qui serve à notre plaisir d'une façon ou d'une autre, nous demandons mal et ne devons pas nous attendre à recevoir ce que nous demandons. Ceci explique pourquoi beaucoup de prières demeurent sans réponse. Bien des femmes, par exemple, prient pour la conversion de leur mari. Voilà certainement une demande tout à fait légitime, mais le motif de plus d'une femme en demandant la conversion de son mari est parfaitement illégitime parce qu'il est égoïste. Elle désire que son mari soit converti parce qu'il serait tellement plus agréable pour elle d'avoir un mari qui la comprenne, ou bien parce qu'il lui est si douloureux de penser que son mari pourrait venir à mourir et être à jamais perdu. C'est pour quelques raisons égoïstes de ce genre qu'elle désire que son mari soit converti, la prière est purement égoïste. Pour quelle raison une femme devrait-elle donc désirer la conversion de son mari? Avant tout et par-dessus tout afin que Dieu soit glorifié, parce qu'elle ne peut pas supporter la pensée que Dieu le Père soit déshonoré par son mari qui foule aux pieds le Fils de Dieu. Beaucoup prient pour un réveil. C'est certainement une prière qui est agréable à Dieu, c'est selon la ligne de sa volonté, mais beaucoup de prières pour les réveils sont purement égoïstes. Les églises désirent des réveils afin d'accroître le nombre de leurs membres, afin que l'église ait une position plus puissante et plus influente dans la communauté, afin que la caisse de l'église soit remplie, afin qu'un rapport favorable soit fait parmi les autres assemblées. Quand les églises et les pasteurs prient pour un réveil, c'est le plus souvent avec des motifs aussi bas que cela, et c'est le plus souvent aussi à cause de ces motifs mêmes que Dieu ne répond pas à la prière. Quel motif devrait donc nous faire prier pour un réveil? La gloire de Dieu, parce que nous ne pouvons pas supporter que Dieu continue à être déshonoré par la mondanité de l'Église, par les péchés des incroyants, par l'impudente incrédulité de notre époque, parce que le monde annule la parole de Dieu, parce que nous désirons que Dieu puisse être glorifié par l'effusion de son esprit sur l'Église de Jésus-Christ. C'est pour ces raisons avant tout et par-dessus tout que nous devrions prier pour un réveil. Bien des prières pour recevoir le Saint-Esprit sont des prières purement égoïstes. C'est certainement la volonté de Dieu de donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il nous l'a dit clairement dans sa parole, Luc 11, 13, mais plus d'une prière pour recevoir le Saint-Esprit est entravée par l'égoïsme de son motif. Des hommes et des femmes prient pour recevoir le Saint-Esprit afin d'être heureux, afin d'être sauvés de leur misérable vie de défaite, ou afin d'avoir de la puissance en tant qu'ouvrier pour Christ ou pour tout autre motif purement égoïste. Avec quel motif devrions-nous prier pour être remplis de l'Esprit? Afin que Dieu ne soit plus déshonoré par le niveau insuffisant de nos vies chrétiennes et par l'inefficacité de notre service, afin que Dieu soit glorifié par la beauté nouvelle survenant dans notre vie et la nouvelle puissance conférée à notre activité au service du Maître.